Bon matin, bon après-midi, bonne soirée à tous. François Berthiaume au micro en remplacement de Jim Boulet pour cette programmation estivale du Cinébrunch, accompagné, comme à l'habitude, de Vicky Langlois.
Yes! Bon matin tout le monde qui nous écoute en direct le samedi.
Ah, bonjour Vicky. Est-ce que tu as passé une bonne semaine?
Oui!
Oui, marqué sous le signe du cinéma, je l'espère!
Oui, vraiment, j'écoute beaucoup de films, je fais beaucoup de rattrapage, des journées complètes de cinéma à la maison.
Ah mon Dieu, ok, ben, je suis sûr que t'en envies plusieurs, moi-même le premier. Bon, semaine un peu plus occupée, mais quand même, semaine très chargée aussi au niveau de notre programmation.
Oui.
Parce que cette semaine, nous vous parlerons, entre autres, du mouvement True Crime, ou du moins de la montée en popularité.
Oui, du style documentaire True Crime.
Oui. Oui. On va essayer de s'attarder là-dessus.
Je vais essayer de faire un petit historique, vous donner des choix, des propositions, par où commencer, par où aller.
Alors, on verra bien avec cela. Avant cela, aussi, on va critiquer les films Knock Down the House et le film Menteur d'Émile Gaudreau, lequel nous permettra de faire un petit top, cette fois-ci, top de nos films québécois récents.
Oui, top, oui. Flop, parcourir un peu le cinéma québécois récent. J'ai aussi, moi, je suis une fidèle auditrice de Cinébrunch, alors j'ai essayé d'éviter de parler des films qui ont déjà été question ici.
Ah.
Un, je suis pas sûre, mais les autres, je suis pas mal convaincue.
Bon, mais vous l'aurez entendu, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce sera l'occasion de découvrir les petites pépites qui se sont cachées dans les dernières années. Mais d'abord et avant tout, comme à l'habitude, notre petite revue de l'actualité cette semaine. Vicky, qu'est-ce que tu as retenu?
Moi, en fait, c'est l'article du IndieWire. Et pour les gens qui nous écoutent le samedi, je tiens à le mentionner parce que c'est vraiment important. Cet article est sorti, là on est mercredi, l'article est sorti lundi.
Ouais.
Le IndieWire mettait en perspective un problème sur le tournage de la saison 2 de Big Little Lies. Donc, c'est une série dont Jean-Marc Vallée est le producteur et il a réalisé la première saison.
Oui, oui.
Pour la deuxième saison, on s'est dit, on va aller chercher une réalisatrice femme, vu qu'on est une série féministe, dont les propos sont féministes, dont les actrices, c'est des femmes de tête. On va aller chercher une réalisatrice femme.
Il me semble aussi, corrige-moi si je me trompe, mais au niveau technique aussi, Jean-Marc Vallée était occupé sur une autre série.
Exactement.
Hein?
Donc, okay. Jean-Marc Vallée s'est occupé de la série Sharp Objects
oui,
à ce moment-là.
Oui, c'est vrai, avec Ellie Madams.
Donc, il voulait pas la faire la saison 2. Alors, on a laissé cette femme faire les 10 épisodes de la saison 2 et rendu à la post-prod, on l'a tassé.
Ah.
Mais on ne sait pas pourquoi. L'histoire ne le dit pas.
Okay.
L'histoire dit, par contre, qu'on a rappelé Jean-Marc Vallée puis on lui a dit « Faut que tu reviennes faire des reshoots, faut que tu reviennes retravailler la série, ça ne fonctionne pas son travail. » Et elle, on lui a dit de rester sur le plateau. Donc, elle faisait le piquette à côté du réalisateur Jean-Marc Vallée. Vous pouvez trouver l'article en anglais d'IndieWire et également la presse, Hugo Dumas de la presse en a fait un rapport de cet article-là en français.
Comme on vous a dit, on en rend juste le mercredi, sûrement qu'il y a d'autres articles qui seront
sortis
depuis.
C'est là que je veux en venir. C'est que dans les deux articles, autant du IndieWire qu'à la presse, Jean-Marc Vallée n'a pas voulu commenter. Mais ce qu'on dit, ce que la réalisatrice et les femmes sur le plateau disent, c'est qu'on aurait pu nous arrêter. Si le travail n'était pas satisfaisant après la production des trois premiers épisodes qui ont été rendus, si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, vous auriez dû nous arrêter. Elle a été engagée carte blanche. Mm-hmm. Elle a deux films, un dont j'ai pas le souvenir et l'autre c'est Fish Tank que je me souviens avoir vu. Elle a deux films, une fille qui danse, là, qui veut être danseuse de hip-hop et qui vit dans des loyers un
ça,
peu...
Ça c'est Fish Tank, ça me semble, ouais.
Et là, elle a dit, mais on connaît mon travail, on m'a engagé pour mon travail, puis on me donne carte blanche, c'est sûr que je vais faire ce que je suis capable de faire, c'est sûr que je vais faire ce que j'aime faire, vous me donnez carte blanche.
Mm-hmm.
Mais après, vous me tassez pour laisser les hommes finir la job.
Là, sans ça, vraiment la tasser, en plus.
C'est ça. Fait que ça a comme créé un courant de malaise. Par contre, moi, j'en parle parce que peut-être que d'aujourd'hui où on enregistre à samedi, Jean-Marc Vallée va avoir parlé et il va y avoir un autre point de vue de la situation. Mais moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a travaillé avec Jean-Marc Vallée sur cette série-là, qui m'a dit « Sais-tu, Vicky, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Oui, la personne a pas rendu, mais ça fonctionnait vraiment pas. » Les trois épisodes qu'elle nous a donnés, ça fonctionnait pas. Elle, la personne, la réalisatrice, quand elle a parlé à Andy Wire, a dit « Moi, de ce que je comprends, depuis le début, c'était ça leur idée. Depuis le début, là, je tournais, je faisais la job sale, puis un coup qu'on est rentré à post-prod, on prenait ce qu'on avait envie, on me tossait, puis on faisait le reste, puis toute ma vision créative valait rien. » Elle a dit « C'est ça le feeling que j'ai. » Ce que j'ai entendu, c'est « pas tout à fait. » Jean-Marc Vallée ne voulait pas du tout la faire la saison 2. Et il a été prié de la faire parce que ça fonctionnait pas, parce qu'on voulait finalement garder un regard. Fait qu'il y a des points négatifs des deux côtés, dans le sens où la production aurait peut-être dû savoir ce que cette femme-là faisait et pas lui donner carte blanche. Lui dire « Écoute la saison 1 et fie-toi dessus.
Ouais. »
Mais en même temps, tu fais ta job, puis si ça fonctionne pas, dis-moi quand... Puis alerter les médias pour parler d'un problème de tournage, pour dire « Hey, finalement, ce tournage-là est aussi sexiste que les autres. Est-ce que c'est le cas? On le sait pas. » Donc, c'est brouillon un peu cette histoire de Big Little Lies 2.
Oui, puis c'est... pour moi, ça met un peu en lumière aussi toute la gourmandise de ces studios-là, parce qu'à la base, il me semble, si je me souviens bien, que Big Little Lies, c'était supposé être une mini-série.
Oui.
Donc, sans aucune suite.
Et voilà.
Fait que, c'est drôle, on dirait finalement que c'est pas l'arroseur arrosé, mais à vouloir plus pousser pour en avoir, ça s'est fini par se retourner un peu
tu
contre
vois,
eux.
Oui, j'aime ce que t'amènes parce que moi aussi, j'ai écouté la saison 1 et je l'ai écouté sur Super Écran,
oui.
On Demand, puis ils te proposent une saison 2. Je fais, pourquoi il y a une saison 2? Ça, je pensais pas.
Tu veux dire que même narrativement,
mais
tu
oui,
voyais pas la nécessité.
Narrativement, il n'y a pas de nécessité d'avoir de saison 2. La manière qu'elle s'est tournée, on t'explique pas qu'il va y avoir une saison 2. Et moi, on m'avait vraiment dit c'est une mini-série bloc béton. Là. C'est
exact.
AZ, ça finit là. Je suis comme, mais pourquoi? Mais moi, je pense qu'à notre ère, les séries télé, on n'est plus capable d'arrêter après une saison.
En tout cas,
on
si
l'a fait
ça
plus
marche,
souvent
ouais.
avant, mais maintenant, on n'est plus capable de dire c'est ça, la série, ça finit. Fini là. Maintenant, rendu qu'on fait des séries d'anthologie où on change de sujet à chaque fois juste parce qu'on n'est pas capable d'arrêter de tirer à la plug.
Ouais.
Fait que moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y a des erreurs de part et d'autre dans cette histoire, mais c'est quand même assez grave de dire est-ce qu'elle a été tassée? Est-ce que c'est la voix de la femme qui a été tassée? Est-ce qu'on aurait dû savoir ce qu'elle faisait avant ou c'était vraiment pas ça qui était prévu puis on n'a pas aimé son travail puis on n'a juste pas eu le courage de dire on le sait pas.
Par curiosité, est-ce que tu as écouté la saison 2?
Non.
Pas encore.
Mais encore là, je voyais pas de nécessité.
Ouais,
je sais
ouais,
même
ouais.
pas si je vais l'écouter.
Mais ouais, c'est ça. J'aurais été curieux de savoir si finalement, c'est ça, ils ont ramené quelque chose d'assez original pour justifier cette saison 2-là. Bon, on verra.
Ouais.
À ce moment-là. Parfait. Écoute, moi, à la base, lorsque je pensais parler actualité cette semaine, j'avais peut-être un peu pensé à évoquer la sortie du film Unplanned. Je sais pas si t'as entendu
parler.
Oui,
ben oui.
Film anti-avortement, film de propagande qui est sorti dans nos salles, dans les cinémas Guzzo ici au Québec,
entre
un peu
autres,
partout.
Oui. Ici à Sherbrooke, il n'est pas...
Non, c'est justement, il n'est pas programmé à Sherbrooke, c'est tant mieux. Après ça, est-ce que j'ai vraiment le goût de reparler un peu de ça? C'est l'été, je me suis dit, on va y aller avec des sujets un petit peu plus légers.
Ben go!
Fait que laissons tomber là, toute l'attention qu'on peut porter à un mauvais film et allons-y avec des propositions assez surprenantes. En tout cas, de mon point de vue, j'aime personnellement toutes ces idées de films qui semblent sortir de nulle part.
OK.
Moi, tu me dis un film réalisé par le gars de Lendemain de veille sur le Joker mettant en vedette Joaquin Phoenix, j'embarque.
OK, je te suis.
Je trouve ça fou. Et là, il y a un an, je pense, Warner Brothers avait annoncé qu'il allait produire un film sur Barbie. Là, déjà
oui!
là, c'est assez particulier parce que, bon, de ce que j'ai compris personnellement, je ne sais pas encore, est-ce que c'est un film sur l'univers Barbie ou sur la conception de la poupée? Je ne sais pas encore. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau du scénario puis de la réalisation. Parce que, bon, on savait déjà que le rôle-titre avait été donné à Margot Robbie, qui est sûrement une des actrices les mieux placées pour jouer Barbie, parce que j'ai compris que c'est ça qu'elle jouerait ou quelque chose comme
ça. Oui, 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 celle qui fait Barbie, oui.
Et on a appris cette semaine, en fait, que le couple Noah Baumbach et Greta Gerwig planchaient présentement sur le scénario et potentiellement que Greta Gerwig allait réaliser le film. Alors, pour ceux qui ne savent pas ça, c'est dans le fond, Greta Gerwig, Noah Baumbach, c'est un couple de cinéastes indépendants qui, dans les dernières années, nous ont donné, par exemple, Lady Bird tout récemment,
yes,
de Greta Gerwig, et Frances Ha pour ce qui est de Noah Baumbach, qui, dans le rôle titre, retrouve Greta Gerwig. Alors, c'est un cinéma qui est très particulier, qu'on n'a pas vraiment vu, en fait, sur des grosses productions. Puis c'est là que ça me surprend, puis que ça m'amuse beaucoup. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'eux vont avoir à amener sur ce sujet-là de Barbie? Vraiment, comme je dis, pour l'instant, on a très peu de détails, mais je trouve l'idée de les impliquer dans la production tellement saugrenue que j'aime ça.
Ben moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Margot Robbie, qu'on connaît pour son personnage dans Suicide Squad...
Oui, alors Harley Quinn, oui.
Oui, ben si ça avait passé de Harley Quinn à ça, j'aurais été déçue. Parce que j'aurais fait, OK, on l'a casté, ça finit là. Mais entre-temps, elle nous a donné I, Tonya, entre autres, un film sur Vine aussi,
oui,
mais je ne l'ai pas vu, mais elle nous a donné I, Tonya, et qui est excellent. Excellent. Et juste, sa performance est incroyable, et je me dis, OK, elle va amener quelque chose à Barbie d'incroyable, c'est sûr.
Oui, oui, oui. Ben on va la voir prochainement, là, dans le rôle de Sharon Tate aussi, dans Once Upon a Time in Hollywood. Là aussi, de reprendre une icône, en quelque part.
Ouais,
oui,
ouais.
Ça va être... Elle a une belle carrière devant elle, Margot Robbie.
Oui,
c'est très,
oui,
intéressant.
C'est très intéressant.
Puis dans toute cette idée-là aussi, d'idée de production un peu saugrenue, Margot Robbie, je disais Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino. On le sait que, bon, ça fait déjà quelques années qu'il dit lui-même qu'il risque d'arrêter sa carrière de réalisateur à son 10e film. Ça, c'est selon ses paroles. Puis c'est considérant aussi, selon lui, que Kill Bill volume 1 et 2 est un seul film. Lui, c'est comme ça qu'il le considère. Récemment, il remettait ça un peu en doute en disant que ça pourrait peut-être être Once Upon a Time in Hollywood, son dernier film, dépendamment de l'accueil et du succès. Mais on sait aussi qu'il y a un an ou deux, il a travaillé à l'écriture du scénario d'un Star Trek, d'un film Star Trek. Et cette semaine, en entrevue, il aurait avoué que ce scénario de film Star Trek, ça pourrait être potentiellement son dernier film en carrière. Alors, personnellement, je suis un petit peu moins excité par cette annonce-là, parce que personnellement, je ne suis pas un fan de Star Trek. Et que Tarantino finisse sa carrière sur une grosse production, d'un côté, ça pique ma curiosité. De l'autre, ben, j'aurais peut-être préféré un film plus personnel comme fin de carrière. Mais encore là, on est dans la spéculation. Et quant à me proposer un nouveau Star Trek, oui, allons-y avec un réalisateur qui sort totalement de l'ordinaire si c'est pour faire quelque chose de différent. Alors, on verra bien.
On verra bien.
C'est maintenant l'heure de notre moment critique, première partie. Alors, Knock the House Down, Vicky.
Knock Down the House.
Oui, excuse-moi.
Okay, parfait.
Qu'en est-il?
Je vais faire quand même une mise en contexte. Pourquoi j'ai choisi ce film-là parmi tout le répertoire des films disponibles en ligne? C'est que présentement, je suis en rattrapage cinéma et je me suis dit, quoi de mieux que d'écouter un documentaire qui s'ancre totalement dans l'actualité politique de l'instant. Alors, Knock Down the House, ça répond un peu à la question de qui sont les fameuses femmes qui doivent retourner dans leur pays, selon Donald Trump. Cette semaine, en début de semaine, Donald Trump a dit à certaines élues, si vous n'êtes pas contentes, retournez dans votre pays. Quatre femmes qui ont... Ils l'ont pas pris, hein? Ils l'ont pas pris, puis même qu'on a appris qu'une des femmes est citoyenne américaine depuis plus longtemps que Melania Trump.
Bon.
Donc, tu sais, le clin d'œil est assez drôle. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. La tête d'affiche du documentaire, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, qu'on résume toujours maintenant par AOC. C'est vraiment... Maintenant, un hashtag AOC. Ah, aussi. Alors, j'avais l'impression que ce serait un documentaire sur elle, mais au début du documentaire, on apprend que non, ça va être vraiment sur qui sont les... En fait, les femmes et les hommes et les personnes différentes qui ont essayé de devenir élus au Congrès.
Ils se sont présentés aux dernières élections de mi-mandat.
Ouais, exactement. Et c'était aussi pour montrer l'espèce d'espoir, la preuve qu'une personne qui gagne ou une personne qui met sa tête sur une affiche va inspirer beaucoup d'autres personnes à faire le pas. Mais elle aussi a gagné. Alexandra Ocasio-Cortez, ouais. Elle a gagné.
Oui, parce que le documentaire prend lieu avant le début des élections de mi-mandat.
Avant le début, et on suit en fait trois candidates féminines qui tentent d'obtenir un poste.
Est-ce que les trois l'ont obtenu?
Non, c'est okay. La seule. Ah, donc, okay. Maintenant, on vend ce film-là avec le visage d'AOC.
Ouais, ouais.
Et moi, je croyais que ça serait un documentaire sur elle. Finalement, ouais. On me dit non, ça va être un documentaire sur les trois. Mais après ça, on rebifurque vers elle. Fait comme si c'était pas un documentaire sur elle, mais vu qu'on le sait qu'à la fin, elle va gagner, il y a eu un remontage pour la mettre plus en vedette.
Ah, okay.
Fait qu'à un moment donné, je me demandais un peu sur quel pied on dansait durant ce film-là. Est-ce qu'on veut montrer l'espoir de s'essayer? Est-ce qu'on veut montrer les idées différentes? Parce que ça, c'est intéressant. On en suit une des trois qui est dans son comté et elle dit « Si c'était des étrangers qui venaient ici... » qui détruisaient nos montagnes, qui rasaient tout, puis qui polluaient notre eau, on partirait en guerre. Mais là, et là on voit un camion passer, c'est des industries. C'est des industries qui font ça, qui contaminent notre eau, qui polluent notre air, qui nous rend malades. C'est toutes les industries américaines et on ne fait rien. Donc on comprend qu'elle, elle se bat pour ça. Et il y a une excellente phrase aussi dit dans le documentaire quand que deux des trois perdent, il y a une personne qui les aidait à gagner, là, quelqu'un du membre ouais. De l'équipe, un membre de l'équipe qui dit... Tu sais, ça, c'était juste une étape. Mais tant qu'on n'est pas mort, il faut continuer à se battre.
Okay.
Ça, c'était qu'une étape, mais on a encore une voix. Et tant qu'on n'est pas écouté, il faut continuer à se battre. Donc, le documentaire a sa raison d'être.
Quelque chose de très inspirant là, dans tout ça.
Il est inspirant, mais il se perd un peu dans « pas de vedette, une vedette, pas de vedette, une vedette
okay, ». Okay.
Donc oui, quand Alexandra a aussi gagné, t'es emporté, t'es heureux. Ah, oh, moi, j'étais sur mon sofa, je le savais qu'elle gagnerait, mais j'étais là, c'est bien filmé, c'est bien tourné, on est avec elle. Aussi, on essaie de nous montrer pourquoi elle a l'air toujours en colère, pourquoi elle est toujours hargneuse dans les médias. Mais on voit le travail en arrière où elle est posée, elle est zen, elle est fâchée, mais posée, mais c'est rendu devant les caméras qu'elle n'est pas capable de s'empêcher de faire du rentre-dedans, puis ce qui est correct, là, c'est une manière que Donald Trump l'a fait, puis on y reproche pas. Donc... J'ai aimé ce qu'on voulait montrer, mais j'ai pas aimé la façon qu'on me l'a montré.
Petit extrait sonore.
Vas-y.
On verra bien.
My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this.
I know you can.
Left wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing.
We're doing something very controversial.
Petite question pour oui. Toi, Vicky, bien entendu, documentaire qui parle de politique américaine. Les risques sont quand même gros aussi de tomber un peu dans une sorte de pathos ou de militantisme ou...
Oui, mais pas ici.
Okay.
Je te dirais que le gros défaut, je pensais que c'est ce que tu allais t'amener, mais le gros défaut, c'est qu'on a peut-être besoin de se faire expliquer un petit peu le système américain. Dans le sens où tu me dis c'est les élections de mi-mandat, je t'ai dit oui, mais c'est pas vrai, c'est pas aux élections de mi-mandat. C'est quand que Alexandra Ocasio-Cortez se présente contre un autre démocrate.
OK. Ah, OK, fait que c'est pour représenter le comté.
Fait que là, c'est pour ça que okay. Je te dis, le gros défaut du film, c'est qu'on nous présente ces personnes-là, mais on comprend pas ce qu'elles veulent.
Ouais.
On comprend pas c'est quoi l'importance de l'élection qu'elles vont essayer de chercher, parce que c'est un démocrate qui se bat contre un autre démocrate.
On est peut-être trop concentré sur les personnages au lieu du contexte.
Exactement. Okay. Et c'est quand on nous présente le contexte que c'est intéressant. Par contre aussi, le problème de ce film-là, c'est qu'il y a eu un film similaire sur Barack Obama il y a des années. J'ai oublié de noter le nom du film, mais je pense que c'est sur la route de la présidence ou quelque chose comme ça.
OK.
Puis c'était une gang de documentaristes qui ont dit « Hey, on va suivre cet homme-là, Obama ». Barack Obama, il veut être élu président, il n'y a pas de chance, mais au moins on pourrait voir c'est quoi la vision qu'il y a pour le pays, puis peut-être que la personne qui va prendre le pouvoir pourrait s'en inspirer. Puis finalement, il a gagné. Puis vraiment, on voit les documentaristes être assis durant le film à faire « Hey, on peut plus faire le documentaire qu'on voulait, faut le changer. » Donc, okay. Moi, j'ai l'impression que c'est un documentaire qui aurait dû faire ça. Tu sais, ça veut dire « Hey, finalement, là, on va prendre juste elle, puis elle qui va aller voir d'autres candidates. » Mais ça va être juste elle, puis ça a monté de elle. Parce que finalement, c'est elle la tête d'affiche tout le long. Quand il y a d'autres femmes qui parlent, on filme sa réaction à elle.
OK. T'sais... Fait que vraiment, on reste là, même si on est sur un autre personnage, on reste collé sur elle.
Alors qu'on veut nous montrer qu'il y en avait d'autres. Donc, je pense qu'il y a un manque de sujet dans ce film-là. Okay. Je vais te laisser pour pouvoir enchaîner avec ta critique, mais c'est pas un mauvais documentaire, mais c'est pas un excellent documentaire.
Sur 10, tu dirais?
Un 6.5. Okay. Comme, tu sais, c'est pas essentiel, mais si vous savez rien de la politique américaine, ça peut être compliqué, mais si vous savez pas c'est qui AOC, puis vous aimeriez comprendre sa place présentement, là, c'est intéressant.
Là, c'est
si ce personnage-là vous a allumé dans les médias dernièrement, si la France de Trump, qu'elle retourne dans leur pays... Vous avez dit, mais c'est qui elle, puis je comprends pas, puis pourquoi, qui ça fâche, c'est qui ça concerne. Ce documentaire-là, vous allez le trouver vraiment intéressant. Par contre, il faut quasiment avoir un peu de base ou savoir un peu qui est qui pour embarquer.
Et voilà, Knock Down the House, documentaire Netflix. Vous avez entendu l'avis de Vicky. Rapidement, j'enchaîne cette fois-ci avec ma critique, celle du film Menteur, nouveau film d'Émile Gaudreau. Émile Gaudreau qui nous a habitués dans les dernières années à la comédie de l'été, à chaque été. Hein. Émile Gaudreau, c'est quand même celui à qui on doit De père en flic 1 et 2, Le sens de l'humour, Le vrai du faux, et maintenant Menteur qui remet en vedette Louis-José Hood, mais aussi Antoine Bertrand, Véronique Leflaguet, Luc Senay, Anne-Elisabeth Bossé. Bref, toute une belle petite production pour une comédie qui va s'axer vraiment sur une intrigue plus fantastique que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, un personnage qui ment comme il respire et qui finit par se retrouver un jour dans une réalité où tous ses mensonges se sont concrétisés. Bref, je vous en parle maintenant. Petit extrait.
Ouais, non, j'irai, mais là, je suis pogné chez nous. Le gars du corps est encore dans le poteau. Je te le jure. Non, écoute, l'ascenseur est encore coincé, là. Quand France commence sans moi, ça se peut que je sois en retard, là. C'est bumper à bumper depuis une demi-heure.
Simon Bert, mesdames et messieurs. Le mazard de la bullshit.
Je ne mens pas.
Faut que ça arrête. Je me dis que t'avais sauvé des vies en Afghanistan.
J'ai jamais dit ça.
T'étais cantinier.
À Valcartier.
Au village vacances, Valcartier. T'as toujours une belle raison pour tes
Donc, vous reconnaissez sûrement plusieurs voix. Le cinéma d'Émile Gaudreau, ou du moins les films que j'ai évoqués, pour moi, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, selon moi. C'est un peu comme du théâtre d'été. T'sais, dans le sens où on sait en allant là qu'on s'en va voir quelque chose de léger pour faire sourire. Et souvent, ce qui fait la force du théâtre d'été, mis à part bon, certaines similitudes, hein, c'est souvent des comédies de mœurs hein, qui remettent de l'avant la famille, les amours, blablabla. Mais c'est souvent l'opportunité pour les comédiens d'avoir du plaisir en jouant et de transmettre ce plaisir-là. Hein. Et je pense que c'est ça qui a plu à plusieurs personnes dans De père en flic ou ces différentes comédies. Ça marche encore avec Menteur, mais sous différents niveaux. C'est-à-dire que, déjà là, on peut souligner que la prémisse est assez intéressante, surprenante avec ce qu'on est habitué de voir. Hein. Pour une fois, en fait, on a autre chose qu'une intrigue qui tourne autour de la famille ou des amours, même si, bien entendu, c'est évoqué. Mais l'aspect surnaturel donne des situations comiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les comédies québécoises. Puis ça peut faire plaisir. Par contre, c'est sûr qu'on reste enfermé aussi dans des situations qui sont pas très surprenantes ou très originales. Comme je le dis, c'est un film qui, en bout de ligne, se tient surtout selon la performance de ses acteurs. Lui, José Hood a un rôle qu'il n'a jamais retrouvé ailleurs. Hein. Je pense que c'est la première fois qu'il joue un peu ce genre de salaud-là, détestable. Il avait déjà joué le dépressif, il avait déjà joué le surénergique. Bref, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec lui. Ça lui donne des scènes aussi où il permet d'aller explorer différents styles de jeu. Hein. Il y a une scène notamment où il danse les claquettes. Il semblerait que ce soit vraiment lui qui a dansé. Scène très réussie pour le coup. C'est surtout au niveau des personnages secondaires que là, on s'amuse. Surtout les personnages secondaires féminins. Geneviève Schmidt, Anne-Elisabeth Bossé donnent des scènes sûrement les plus drôles du film. Et Catherine Chabot, que je ne connaissais pas avant film-là.
Elle fait quoi, elle, dans le film?
Elle joue la traductrice, dans le fond. Il va y avoir une compagnie russe qui vient.
OK, parfait. Et c'est pas, parce que j'ai juste vu la bande-annonce, puis il y a sa patronne. Je ne savais pas si c'était la patronne.
C'est Geneviève Schmidt, ça, ouais. Qui, oui, est très bonne. Moi aussi, ça fait quelques films, elle, que je la vois, Geneviève Schmidt. Je l'aime bien.
Elle joue dans Unité 9.
Oui, entre autres. Et oui, dans le fond, ces rôles secondaires-là, féminins, ont du plaisir, ça se voit, et c'est les meilleurs du film. Anne-Elisabeth Bossé, qui vraiment a une belle année niveau cinéma-télé, là, vraiment, là, une année exceptionnelle. Mais là, vraiment, elle a comme l'occasion juste vraiment de cabotiner sans que ça soit saugrenu, sans que ça se détache du film. C'est vraiment ce plaisir-là contagieux qu'on retrouve et qui est amusant. Par contre, c'est pas tous les personnages non plus qui y ont droit. Je pense entre autres à Antoine Bertrand qui, lui, pour le coup, est enfermé dans un personnage qui a peu de choses à offrir. Bon, dans Les mensonges de son frère, ça dit que le personnage d'Antoine Bertrand est malchanceux. Donc, quand ces mensonges deviennent réalité, ils deviennent malchanceux. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, ben tout ce que le personnage a à faire, c'est « Ah, je suis malchanceux, je reçois des trucs sur la tête. Ah, je suis malchanceux, je me fais mouiller quand je passe à côté des gicleurs. »
Ouais, c'est limité, là.
C'est très limité. Et quand on connaît déjà le talent de comédien d'Antoine Bertrand, on peut être un peu déçu. L'autre chose qui peut faire titiller devant le film, c'est l'usage d'effets spéciaux. Parce que, toute l'idée d'une prémisse comme celle-ci, c'est de donner des situations hors du commun, surnaturelles. Et on a voulu faire des scènes à la hauteur de grandes productions américaines. On n'est pas encore rendu là. Et moi, ce qui me fâche d'autant plus, c'est que c'est finalement des scènes qu'on n'avait pas besoin de voir dans le film.
Ouais, on aurait pu se limiter à ce qu'on était bon.
Oui, exactement. Mais je pense, par exemple, à une scène de flashback où on revient dans l'enfance du personnage de Louis-José Hood et pendant un bref instant, on voit son père luxonné avec le visage rajeuni, comme on l'a fait dans les Star Wars ou les films Marvel. Mais une demi-seconde et c'est très étrange. C'est, okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça. Ouais, pendant le flashback, on n'avait pas besoin de revoir luxonné, rajeuni. Je comprends qu'on voulait montrer les prouesses techniques qu'on était capable de faire. Malheureusement, on n'a peut-être pas encore le moyen de nos ambitions et c'est assez dommage. Bon, c'est un film correct. C'est vraiment pas le plus drôle non plus au niveau comédie. Mais pour sa proposition originale, je lui donne quand même la note de passage. Un beau 6 sur 10. Alors voilà, c'était notre segment critique avec Knockdown the House et Menteur. On se laisse le temps d'une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec notre top 3 des meilleurs ou pires films québécois des dernières années et petite discussion après sur la montée du true crime.
Yes,
à plus tard.
Sir.
Et nous Nous voilà de retour à votre Cinébrunch. François Berthiaume au micro, toujours accompagné de Vicky Langlois pour cette deuxième demi-heure de l'émission cette semaine, alors que nous allons faire le pont avec notre dernier segment, soit la critique du film Menteur d'Émile Gaudreau. Alors, ça nous a inspiré pour notre petit segment top dont on vous a déjà habitué depuis deux émissions pour cet été, de se demander quel est l'état du cinéma québécois des dernières années. Parce que, au niveau populaire, on sait qu'il y a toujours cette idée que le cinéma québécois se résume à des drames familiaux ou des comédies de mœurs. Mais les plus avisés d'entre nous savent que ce n'est plus le cas.
Oui, mais encore, je pense que niveau financement, là, c'est ce qu'on finance.
Oui,
c'est
au niveau financement sur la place peut-être mainstream du cinéma.
Oui, exactement. Mais en fait, moi, quand on me parle de cinéma québécois, je me fie à la Bible, qui est le site internet filmquebec.com. C'est la place où on répertorie tout ce qui se passe cinéma québécois. Puis quand on répertorie des films, des fois, il y a des films que tu dis, ben, c'est pas tant québécois, mais oui, comme le film de Kim Nguyen, là.
En fait, on pourrait dire presque tous les films de Kim Nguyen.
Ils sont faits à l'étranger. Ouais. Ben là, il a été tourné au Québec, mais avec Hummingbird Project. C'est ça. Ouais. Mais lui, il répertorie comme film québécois. Donc, vraiment, là, t'as cette Bible-là. Puis, je voulais introduire le sujet avec. Savais-tu, François, qu'il y a 45 films répertoriés, 45 films québécois répertoriés en 2018 selon le site filmquebec.com. Donc, il y aurait eu 45 films en 2018. Ouais. C'est à peu près 10 de plus qu'en 2017, mais 2016, qui avait à peu près 35 films chaque, similaire à 2015, mais c'est 20 de plus qu'en début 2000. Toutes les années 2000 à 2010, à peu près, là, c'est une moyenne de 20 films québécois sur les écrans. Lui, il répertorie vraiment tout ce qui a été mis en salle. C'est à peu près... Puis il répertorie en salle Fantasia aussi, mettons. S'il y a eu une sortie Fantasia seulement. Donc, il y aurait eu 20 films seulement. En 2002, il y a eu seulement 17 films en 2002. Mais on les connaît tous ou presque. Si tu vas sur le site, tu vas 2002, La turbulence des fluides, Un homme et son péché, le Moïse Rocktério, Histoire de peine, Le Nègre, Québec-Montréal, Le collectionneur, Les dangereux, Le Marais, Mademoiselle C. Peu de films, on les connaît tous.
Ouais.
Ou presque. Ouais. Sur les 17, je ne les ai pas nommés 17.
Mais quand même, je suis sûr qu'il y en a au moins 2-3 qui ont sonné des cloches à nos auditeurs.
Exactement. Ouais. Fait qu'on se reporte à 2018. Puis 2017, un petit peu moins, mais on est rendu à 45 films en 2018. 45!
Plus que le double.
C'est plus que le double et on les connaît moins.
Ouais.
Donc, il y a une réflexion à se faire sur quantité. Je parle pas quantité-qualité, là. Je parle de quantité de diffusion aussi. Est-ce qu'on en a trop?
Oui.
Qu'on a de la misère? On en a... Parce que 45 films... C'est beaucoup par mois.
Ben, tu parlais justement de financement, tout ça. Puis c'est vrai que l'argent finit toujours dans les poches, peut-être des mêmes productions. Mais quand on regarde, là, ne serait justement que justement les bandes annonces de ces 45 films-là, je suis sûr qu'il y en aurait plusieurs qui réussiraient quand même à nous surprendre. Je regardais, moi, les finalistes, justement, du dernier Gala Québec Cinéma.
Oui.
Des films, justement, pour la plupart, qu'on connaît aucunement. Qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui, quand même, ont de la gueule.
Exactement,
vraiment,
exactement. Et, tu sais, tu dis, mettons, lui, il introduisait l'année 2002 en disant « C'est une bonne année de cinéma, mais tout a été raflé par un homme et son péché. »
Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Mais reste que j'ai entendu parler de tous les autres films, pareil.
Ouais.
J'ai jamais vu Mademoiselle C. Je me souviens très bien du poster. Je sais très bien c'est Perron avec, tu sais, Chantal qui descend avec sa robe bleue. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu beaucoup de films en 2018. On parlera pas de qualité, mais on va parler de quantité. 45, c'est beaucoup par mois. Mm-hmm. Si on y va à une vingtaine de films par mois, ça permet quand même d'en avoir un comme un gros plan. Ce mois-ci, c'est celui-là. Un homme et son péché, même si c'est 2-3 mois, c'est pas grave. C'est ce mois-ci, c'est un homme et son péché.
Ouais.
Après, fait qu'il y a peut-être aussi une espèce d'avalanche, de surplus de films, que ça devient un petit peu dur d'aller toutes les voir, de débroussailler, d'en entendre parler aussi.
Oui, et surtout, moi, je pense un gros problème de diffusion.
Oui, exactement.
Gros problème.
Moi, j'ai fait également, comme toi, j'ai fait l'exercice d'aller ressortir quelques titres, mais je suis passée par Super Écran. Parce que j'ai des titres que je n'ai pas vus et qui sont difficilement disponibles, outre que si on les paye à la carte sur iTunes et Google Play.
Ouais.
je ne suis pas allée là. Fait que moi, mes choix sont des choix super écran.
Bon, ben, si vous avez super écran chez vous, mesdames et messieurs,
super écran, ce n'est pas.
Ce sera vos suggestions présentées par Vicky Langlois. Alors, sans plus attendre, on va y aller avec ton troisième choix. Numéro 3, Vicky, qu'est-ce que t'as retenu dans les dernières années du cinéma québécois?
Numéro 3, je dirais mon ami Walid, parce qu'on en a entendu parler beaucoup.
Oui.
On a entendu parler de ce film-là comme étant triste parce qu'il n'était pas financé. Puis quand je suis sortie du cinéma, parce que j'allais au cinéma, j'ai fait, ben, je comprends pourquoi il n'a pas été financé. C'est pas que le film est mauvais, c'est que le film a des erreurs scénaristiques énormes.
Oui.
La fin est tirée par les cheveux. Ta voix un peu venir. À part Adib Al-Khalidi qui sort vraiment de son clown de scène, Julien Lacroix, c'est son clown de scène complètement. Donc, si tu y vas pour Julien Lacroix, soit t'es déçu parce qu'il te donne ce qu'il t'a toujours donné, mm-hmm. soit t'es content parce qu'il te donne ce qu'il t'a toujours donné les 5 dernières années sur le web.
Okay.
Mais ce film-là n'a pas été financé parce que ce film-là avait des creux scénaristiques incroyables et que probablement qu'ils se sont dit « C'est bien beau les boys, vous avez un bien bon film, vous avez une bien bonne idée, mais retravaillez votre idée. » Puis ils ont décidé de pas le faire puis ils sont passés par un scénario, du financement public, là, tu sais, de demander.
Oui,
sociofinancement.
Oui. Dirais-tu que, parce que justement j'en ai entendu parler, je l'ai pas vu moi, mon ami Walid, mais oui, j'ai entendu parler un peu des différents problèmes du film. Est-ce que tu dirais que c'est davantage des problèmes d'une première réalisation ou davantage un problème peut-être d'inexpérience vraiment au niveau cinématographique?
Ah, une expérience. Mais en même temps... Tu sais, on aura beau parler contre les sociétés qui nous financent, là. Quand que t'as un refus, il y a une raison de ce refus-là. Écoute-le.
Okay.
Parce que des fois, c'est capoté. Moi, je sais pas, un jour, je te parlerai de toute l'histoire autour des 7 jours du Talion, à quel point les refus étaient capotés, ça ne faisait aucun sens. Mais parfois, il y a des moments où on fait « peut-être qu'il avait raison, peut-être que je devrais les écouter ». Moi, j'ai l'impression que les garçons, ils ont dit « non, on sait ce qu'on fait, on n'écoute pas les refus, puis on fonce ». Mais en même temps, il y a des faiblesses. Les gars, il y a des faiblesses. Vos personnages se tiennent à peine. Les textes se tiennent pas tant que ça. La finale ne fonctionne pas. Elle est décevante. C'est sûr qu'ils vont la remplir, leur salle. Ils ont des fans. C'est sûr qu'ils vont la remplir.
Ouais.
Mais est-ce qu'on va se souvenir de ce film-là comme un film de qualité?
Peut-être non. Pas. OK, très bien. Eh bien, moi, je vais enchaîner avec un film que je considère de qualité. En 2017, on a eu le droit à La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie, adapté du roman éponyme de Gaétan Soucy, que je connais. Ça a été mon professeur de philosophie, justement, un an avant son décès, ce qui fait que j'ai un rapport très particulier, justement, avec ce film-là. Mais outre ce rapport particulier, c'est un film vraiment qui détonne comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est comme si, dans le fond, Les filles de Caleb avaient été écrites par Edgar Allan Poe ou Charles Baudelaire. Quasiment, genre.
Wow.
C'est cette idée-là de un frère et une sœur qui vivent sous le joug patriarcal du père extrêmement oppressant qui, du jour au lendemain, va disparaître. Livrés à eux-mêmes, ils vont aller explorer le monde un peu de manière très onirique, gothique, baroque. Vraiment, c'est le visuel qui détonne dans ce film-là. La direction photo en noir et blanc est magnifique. On a des scènes, vraiment, on a l'impression d'être dans un film d'horreur tant l'ambiance est asphyxiante, mais on est vraiment plutôt dans, comme pour le roman, une sorte d'essai philosophique où c'est en fait ces esprits libérés qui ont été justement oppressés toute leur vie et qui tout d'un coup sont livrés à eux-mêmes sans savoir un peu quoi faire. C'est très particulier comme film, très étrange, peut-être pas le plus accessible, mais à tous ceux qui me disent justement qu'on n'arrête pas de faire des drames historiques un peu plates, eh bien celui-là vraiment détonne comparé au reste.
Je suis contente d'en entendre parler parce que je m'étais juste fait dire que ça détonnait.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu dur de parler vraiment précisément du film, mais c'en est néanmoins un très bon. Alors, pour ton deuxième, Vicky.
Oui, alors moi, pour le deuxième film, j'ai choisi... encore une fois, j'ai triché, je te lève avec deux, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est soit une colonie, soit les faux tatouages, ça dépend ce que tu vas rechercher.
Oui.
Une colonie, première année du secondaire, donc l'histoire d'une jeune fille qui débute le secondaire et qui veut, tu sais, qui choisit entre être la personne que je suis ou être la personne que j'aimerais être au secondaire, c'est toujours une bonne question.
Oui.
Ou les faux tatouages sur une belle relation, les débuts d'une relation amoureuse.
Okay.
C'est pas la première aux deux, là, c'est pas leur première relation amoureuse à ni l'un ni l'autre, mais voir ce début-là. Donc, est-ce que vous voulez voir un début d'une relation amoureuse de jeune, de 18 ans, ou voir les débuts d'une jeune fille qui commence au secondaire? Les deux films sont disponibles sur super écran. Je répète, une colonie, ça, c'est pour la jeune demoiselle qui débute son secondaire. Les faux tatouages, ça, c'est pour le jeune couple. Les deux films souffrent d'un problème, être trop collés sur leur personnage principal.
Ah.
Les deux films, le meilleur exemple, c'est une colonie. À un moment donné, elle s'en va dans un party de sous-sol. On aimait-tu nos parties de sous-sol au secondaire?
Ah oui!
Mais décroche de ton personnage principal. C'est filmé à hauteur d'épaule. Tu vois pas le monde autour ou à peine. Ouais. À un moment donné, tu vois dans un coin, au loin, le gars qui rentre une caisse de bière par la fenêtre du sous-sol pour pas que les parents qui surveillent en haut le voient rentrer de la bière. Mais ça, je veux voir ça. Tu sais, je compare peut-être au cinéma américain où quand on fait un party, on voit tout le monde dans le party. Là, c'est pas le cas.
Okay.
Et sinon, les faux tatouages, encore une fois, on connaît pas leurs amis, on connaît pas assez leur entourage. Il y a des faiblesses que tu dis, je comprends pas pourquoi ils réagissent de même, parce que t'es pas conscient des personnages secondaires. Donc, les deux films ont le même problème d'être trop collés sur leur sujet, mais qui sont excellents dans leur sujet.
Alors voilà, les faux tatouages ou une colonie. Pour ma part, numéro 2, j'y vais avec le premier film de Yann Lagarde. Yann Lagarde, c'était, il réalisait quelques courts-métrages auparavant, mais aussi directeur photo sur différents films, notamment les films de Denis Côté, Vic et Flo, On vient un ours. Il y a 2 ou 3 ans de cela, il est arrivé avec All You Can Eat Buddha. Film que j'ai eu la chance de voir au Festival du Nouveau Cinéma.
La chance, c'est d'en parler parce qu'il est difficile
parce
à trouver.
Parce que, oui, extrêmement difficile à trouver. Peut-être justement parce qu'il n'a pas réussi à rencontrer son public, mais c'est dans la veine de ce qu'on a pu voir avec du Louis Buñuel ou du Jodorowsky, avec vraiment un univers onirique, surréaliste, personnage qui erre dans une station balnéaire à Cuba, qui est une sorte de satire de l'absurdité de nos vies modernes, avec des images qui sont très intrigantes, très étranges. On a la difficulté des fois à trouver le sens, puis c'est sûrement pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont décroché. Mais du moment qu'on y va voir le film vraiment avec un état d'esprit totalement ouvert, c'est un film unique parmi le paysage québécois. Alors, ton premier choix numéro 1, Vicky?
En fait, mon premier choix, c'est un film à éviter. Parce que là, je vous dis, vous allez sur super écran, vous prenez des films, puis là, on va donner envie aux gens de fouiller. Hein, t'es d'accord avec moi? Les gens vont dire, ah, celui-là, je l'ai pas vu. Le film Ailleurs, touchez pas à ça.
Oh,
ne
okay.
touchez pas à ça, c'est épouvantable. J'étais assis sur le sofa avec mon chum quand on écoutait ça, on voulait se taper la tête sur les murs.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Avec raison. manque de richesse dans le scénario. Les décors, on dirait des décors de théâtre. C'est filmé, tout est noir autour du décor parce qu'on n'a pas eu d'argent pour remplir le décor.
Ah.
Ah, c'est épouvantable comme film. Je suis désolée parce que c'est un premier film aussi. J'ai pas pris de notes sur le réalisateur ni rien parce que je veux pas détruire le réalisateur. C'est un manque de financement, mais l'histoire ne tient pas la route. On sait pas son où les personnages. À part être au Québec. Ça ne fonctionne pas. Ça manque de temps aussi dans la répétition des textes. Fait qu'on a l'impression que ça fait action. Ils ont dit leur texte pour la première fois, coupé, on passe à autre chose. On essaie d'être edgy en mettant des personnages un peu punk. Ça marche pas. Fait que vous allez être inspirés. En sortant, en écoutant la fin de notre émission, vous allez dire, on va écouter n'importe quel film québécois. Ça se peut que ça marche pas.
Bon.
Ailleurs, ça ne marchera pas.
Finalement, ton top, c'est plus un top de films à faire attention, finalement.
Exactement. Mais c'est le cas quand même avec le cinéma québécois ou avec n'importe quel cinéma, d'ailleurs.
Oui, mais je pense que oui, peut-être aussi avec le cas du cinéma québécois, justement, parce que je disais aller voir All You Can Eat Buddha avec un esprit ouvert. Je pense que c'est ça qui manque des fois. Quand on va voir justement un film québécois qui n'est pas une comédie ou un drame, tout d'un coup, on n'est plus refermé.
Ah, totalement.
Fait que c'est drôle, hein? Il y a une genre de contradiction là-dedans.
Totalement. On s'en permet plus avec les comédies américaines.
Oui.
Si c'est mauvais, ça ne nous dérange pas trop. T'sais.
Moi, tu vois, mon premier choix, c'est un film que je trouve qui a, dans les dernières années, le film qui a le mieux réussi à prouver qu'on est capable de faire quelque chose de différent tout en restant accessible. et c'est Les Affamés de Robin Aubert.
Oui!
Le film de zombie mettant en vedette Marc-André Grondin, qui pour moi est vraiment là, ma grosse claque des dernières années au niveau cinéma québécois, parce que Robin Aubert, je l'adore. Ça fait déjà des années qu'il essaie de faire du cinéma de genre au Québec. Saint-Martyr des damnés avec François Grondin il y a quelques années, très bon quand même, un peu vieilli mais très bon.
La fin a mal vieilli, le reste, ouais, le suspense, ouais, non.
C'est ça. Ben, l'ambiance à la David Lynch, tout ça, vraiment, qu'on essaie quelque chose de différent. Moi, c'est tout ce que je demande. Et Robin Aubert le fait. Et vraiment, on parlait de Dead Don't Die aussi il y a quelques semaines. Ce film-ci, c'est un film de zombies qui réussit à se réapproprier le mythe et qui en fait quelque chose de différent. Quelque chose même de touchant puis de sensible aussi, en quelque part, avec ces zombies qui semblent avoir des mémoires de leur passé, qui essaient de récupérer des objets qu'ils affectionnent pour faire une genre de tour pour monter au ciel. En tout cas, il y a vraiment toute une mythologie qui est vraiment à Robin Aubert, puis qui a insufflé à ce film-là, et à n'importe qui, justement, qui veut essayer quelque chose de différent dans le cinéma québécois, ma première suggestion, ça serait celui-ci, sûrement le plus accessible des films que j'ai mentionnés, Les Affamés de Robin Aubert.
D'accord. Oh! Ben, de toute façon, pendant que tu cherches ton indicatif musical, moi, je vais vous dire, et au pire, on se mariera. Disponible aussi. Ah! Que j'ai adoré. Je l'ai écouté deux fois.
Ah oui?
Deux fois. Il est sorti en 2017, puis j'ai déjà écouté deux fois.
Ben, ouais, mention honorable.
Ah oui, vraiment, là, celui-là, sur Super Écran, vous allez adorer. Et voilà. Ah non!
Non!
Ah non! La musique a coupé. Fait qu'on continue. Et au pire, on se mariera.
Bon, eh ben, on va y aller sans indicatif sonore à ce moment-là.
Tu me donnes combien de temps pour ma chronique, mon cher François?
Écoute, on en a environ, je dirais, 10. Alors, allons-y de ce pas, le true crime.
True crime, je voulais vous parler de ça, je t'en ai parlé vite cette semaine. C'est qu'il y a vraiment une montée de ce style-là, de ce genre-là, puis le Québec vient d'embarquer. Mais je remonte quand même l'histoire en partant du Québec, parce qu'il y a eu nos fameuses soirées policières à Canal D.
Oh oui.
Plus vieux que ça, on a eu les dossiers mystères, mais je remonterai pas là, parce qu'après, entre les dossiers mystères et les soirées policières, il y a eu un creux de vague.
Mais il y a toujours eu une fascination.
Il y a toujours eu ça, mais c'était très pointilleux. Okay. Là, avec le retour du true crime, je te dirais qu'il y a un retour du fanatisme des dossiers mystères. Puis les gens voudraient que ça soit repris. Donc, on va laisser les dossiers mystères de côté et on va commencer vraiment avec les soirées policières à Canal D. C'était le fun, mais les vendredis policiers, mais c'est un peu gênant. Tu sais, tu disais pas, hey, vendredi, qu'est-ce que tu fais? J'écoute les vendredis policiers à Canal D. Aussi parce que c'était mal traduit. C'est souvent des émissions américaines avec un doublage mauvais par-dessus. Donc, ça l'a intéressé les Québécois, mais attention.
Un peu comme un plaisir coupable. On sent un peu voyeur, je pense.
Exactement.
Des fois,
hein. Mais ça, c'était même pas. On l'annonçait pas qu'on l'écoutait. Tu comprends? Ouais. Tout le monde l'écoutait, mais personne ne le disait.
Oui, tout à fait.
Et là, il y a eu un tournement ici au Québec avec l'arrivée d'un tueur si proche.
Oui.
Parce que c'était des meurtres québécois.
Oui.
C'était nos voisins. C'était une narration québécoise. C'était des acteurs d'ici. Tu n'avais pas de faux doublage mauvais. Et ici, là, je te dirais que le pilier de notre true crime a été un tueur si proche. On n'est pas encore dans le documentaire, on n'est pas encore dans le long métrage, mais on arrivait à introduire l'idée aux Québécois, vous pouvez écouter des affaires un peu sordides, puis ça passe.
Oui, toujours parce que je pense que le côté que le monde aime beaucoup aussi, c'est tout le temps cette idée-là basée sur une histoire vraie.
Exactement.
Hein?
Là, c'est qu'on on effleure l'idée du documentaire basé sur une histoire vraie. Mm-hmm. Pas la fiction encore.
Mais on y vient.
Là. On y vient. Là, après ça, aux États-Unis, il y a eu deux piliers qui sont arrivés quasiment en même temps. Le premier, ça a été le podcast Serial, qui a eu le plus grand nombre de téléchargements en peu de temps, soit 5 millions de téléchargements en 2014, alors que le podcast commençait. Tu sais, pour beaucoup, là, ça a été leur premier toucher au podcast, ça a été la série Serial, où vraiment on a une narratrice qui nous explique une enquête, mais c'est en anglais. Fait qu'encore là, les Québécois étaient un peu plus frileux avec Serial, mais on en entendait parler même à Radio-Canada. Ça a été un pilier aux États-Unis sur la montée du true crime. Mais ce qui a vraiment été cherché en public québécois, ça a été le hit Making a Murderer sur Netflix, parce que lui, tu peux l'écouter en français. Et Making a Murderer, ça parle de l'histoire de Stephen Avery. Le film est sorti en décembre 2015, mais on a suivi sur 10 ans Stephen Avery et on pose la question, est-ce qu'on a créé un tueur? Où est-ce que Netflix a gagné avec cette série-là? C'est que c'est la première et la seule fois, la seule et unique fois, François, où Netflix a décidé de mettre le premier épisode sur YouTube. Netflix a volontairement fait un lancement sur Netflix et sur YouTube en même temps. Donc, Netflix croyait vraiment à son produit de True Crime. En allant chercher, il s'est dit avec ça, j'ai un potentiel d'aller chercher des nouveaux auditeurs.
Mais pourquoi avec Making a Murderer? Pourquoi on n'a pas fait ça avec Stranger Things, par exemple?
Qu'on sentait qu'on avait la montée du True Crime, mais qu'en même temps, c'était vide. Tu sais, t'as un tueur si proche qui a pas une qualité visuelle, qui a pas une recherche sur 10 ans. T'as Serial qui est juste de l'audio. C'est pas tout le monde qui écoute du podcasting. Ouais. Puis tu sais, de l'audio, Donc, il savait que Stranger Things, là, ben, c'est les Goonies, veux pas. Tu sais, Stranger Things, c'est le Lost Boy. Tu sais, ce genre de cinéma-là, fan de Spielberg, on en a énormément. Le True Crime sur un documentaire bien monté, en 10 épisodes, bien ficelé, bien réalisé, beaucoup moins. Il sentait qu'il tenait quelque chose. Et comme de fait, ça a été un des plus gros hits Twitter. En décembre, le hashtag Making a Murderer était plus populaire que Noël Christmas pendant un temps.
Oh, wow, OK.
Parce que tout le monde disait, c'est ça, faut que t'écoutes pendant ton temps des fêtes. Fait que les gens associaient Making a Murderer au congé des fêtes et non à Noël, tu comprends?
Ouais.
Donc, ça a été énormément trending que pendant ta pause des fêtes, ce que tu fais, c'est t'écoutes Making a Murderer. Et c'est là que ça a tout parti. Et après, avant ça, avant Making a Murderer, HBO a sorti une série, ça s'appelait The Jinx. Il y a eu un problème et un bénéfice à The Jinx. La première affaire, c'est HBO, très limité. Très, très, très limité. Et on a su la finale avant même la sortie parce que t'en as sûrement déjà entendu parler, François, de Jinx. Ça suivait l'histoire d'un homme qu'on croyait qu'il avait potentiellement tué quelqu'un. Puis on suivait ça sur 10 épisodes avec des pour des contre. La veille de la sortie de la série du premier épisode sur HBO, on a interviewé le monsieur en question. Celui-ci est allé aux toilettes avec son micro et pendant qu'il est en train de pisser, il a oublié qu'il avait son micro. Et qui est allé dire, il est allé confesser son crime. Il est allé dire, vont-tu me lâcher? Je l'ai tué, lâchez-moi.
Oh non! Ah non, j'avais jamais entendu parler.
Ça vaut la peine. The Jinx, c'est sorti avant Making a Murderer, mais encore là, diffusion limitée sur HBO. Là, on le sait qu'il est coupable. C'est clair. Ouais. Avant la diffusion, est-ce que tu vas l'écouter? T'es quasiment plus envie de dire j'attends la saison 2, tu sais. Il y a eu moins un effet de masse. L'histoire était cocasse, mais il y a eu moins un effet de masse que Making a Murderer, qui a vraiment été le hit ici, comme vraiment en Amérique du Nord.
Mm-hmm.
Après ça, là, ça s'est multiplié. Netflix a compris qu'il tenait une pépite, là. Netflix a compris que ça, là, les gens allaient s'abonner à Netflix, fait qu'il fallait en sortir. Là, ils ont sorti The Keepers. Ils ont sorti The Keepers, ils ont sorti The Innocent Man, ils ont sorti American Vandal, Amanda Knox, Evil Genius, Abduct in Plain Sight, The Confidential Tape, qui a mené à The Ted Bundy Tapes, et The Staircase. Donc, j'en ai juste là j'ai à peine fait une recherche, je peux t'en donner une dizaine. Lesquels as-tu vu, toi?
Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas vu beaucoup dans True Crime. Peut-être un que j'ai vu il y a quelques années, parce qu'il était nominé meilleur documentaire aux Oscars. O.J. Simpson versus The People.
Exactement, oui.
Je pense que c'était ça le titre, parce que je sais qu'il y a eu la version fictive aussi.
Il y en a eu plusieurs.
American Crime Story.
Si tu vas chercher True Crime sur Wikipédia, on dit qu'un des personnages les plus affectés par le True Crime, il y en a deux, c'est Ted Bundy et O.J. Simpson.
Et puis, sûrement, c'était l'autre que j'allais amener aussi. Exactement. C'est deux sûrement des personnages qui se connectent.
C'est ça.
Je pense que...
Il y a aussi Charles Manson, mais on l'a lâché un petit peu dernièrement, Charles Manson. Il va revenir.
Ben, c'est ça. On est en 2019, ça fait 50 ans, les crimes.
Il va revenir. Pour l'instant, on est sur Ted Bundy, mais il va revenir. Le problème aussi avec le true crime, c'est mon avis, c'est qu'on va ressortir des vieux documentaires qu'on a réalisés dans les dernières années, parce que là, les gens en gobent, fait qu'ils en veulent toujours plus. Ils sont pas nécessairement sur le podcasting. Des fois, il y en a qui vont aller se tourner là, mais d'autres veulent vraiment du documentaire. Fait qu'on va ressortir des vieilles affaires. Par exemple, moi, j'ai vu The Brandon Tina Story, où le vrai crime, c'est le travestissement de Tina. Tina est une jeune femme trans. Ben, un homme trans, c'est Brandon. Et quand les gens ont su que Brandon était en fait Tina, ils l'ont tué, mais tout le documentaire de 98 nous parle à quel point c'était catastrophique que Brandon soit Tina. Qu'elle est assassinée. On oublie que cette personne-là est décédée à cause que c'était une personne trans. tout ce qu'on fait, c'est dire à quel point c'est un menteur puis un trou de cul de nous dire que c'était une personne trans puis de pas le dire.
Devenu un peu un témoignage des meurtres de son
époque. Exactement, exactement. Mais en même temps, c'est bouleversant parce que moi, ouais, j'écoute du true crime pour connaître une histoire de crime et le crime, c'est le travestissement, c'est pas le meurtre.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, je pense qu'il y a des bons côtés au true crime. Mm. Tu sais, on parlait, oui, il y a du voyeurisme puis il y a de l'indignation aussi. On est capable de faire dire ce qu'on veut en voulant dire, regardez comment la police manipule les choses, là. Donc, oui, on est capable de manipuler le discours, mais aussi, c'est que quand on ressort du vieux stock, les discours manipulés sont peut-être moins intéressants. Ouais.
Juste, on achève bientôt. Question cinéma, justement. Là, on a parlé séries télé, tout ça. Dans les dernières années, on a eu justement un film sur Ted Bundy sur Netflix, mettons, oui, t'avais Zac Efron. Je pense à Gone Girl, ça fait un petit peu plus longtemps quand même. Est-ce que le true crime vit ses beaux jours vraiment pour la télévision comparativement au cinéma?
Moi, je pense que oui. Je pense que le true crime va vivre des beaux jours en série parce qu'on a besoin de ces moments de pause entre deux épisodes où on va te poser une question. Je pense, par exemple, qu'avec la série « When They See Us », dont j'ai parlé aux auditeurs de deux semaines, je pense qu'on va amener un peu de fiction dans le true crime et je pense qu'on va amener beaucoup de qualité. Quoique « Making a Murderer », c'était d'énorme qualité, je pense que la suite du true crime, c'est dans la qualité. On va insérer de la fiction, on va quitter un peu le mode documentaire pour l'amener dans le mode fiction. Et il me reste 50 secondes encore pour vous dire qu'il y a une place au Québec énormément pour ça. En podcasting, il faut aller chercher Histoire d'enquête en français, ce podcast de Ici Première. Et énormément le retour de Claude Poirier. Le true crime a permis à Claude Poirier de revenir sur scène. Il y a sa série sur Historia que vous pouvez retrouver. Oui, mais là, il n'est plus un négociateur. Il fait vraiment du true crime. Il reprend tous les crimes qui ont demandé d'être enquêtés pendant sa carrière. Il les prend à la caméra. Il reprend tous les détails. Donc, pour les amateurs de true crime, les séries de Claude Poirier que vous pouvez trouver sur YouTube et sur les sites officiels de Historia. Et le dernier, Tout.tv vient de sortir sa propre série qui est sur Extra.
OK, et parfait. Voilà tout le monde. Vous avez entendu, c'était nos suggestions pour cette semaine. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et on vous dit à la prochaine.